carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christa Leuc.
Bienvenue dans cette émission consacrée à l'art, Carrefour des arts, que j'ai le plaisir d'animer avec Brigitte Ducosso-Mao. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne de l'art, conférencière, professeure et aussi commissaire d'exposition. Et vous avez choisi de présenter à Canal Académie une série d'émissions sur l'art nouveau à travers l'Europe, puisque ce courant artistique a été répandu vraiment dans toute l'Europe. Mais pour bien comprendre les sources et l'origine de l'art nouveau, il paraît qu'il faut d'abord s'intéresser au mouvement Arts and Crafts. Alors, pourquoi avoir choisi ce mouvement comme introduction à notre série ?
Alors, j'ai choisi ce mouvement comme introduction à notre série car c'est un mouvement artistique qui apparaît dans le dernier quart du 19e siècle en Angleterre, bien avant tous les autres mouvements en Europe, si l'on peut dire, si on considère que l'Angleterre ne fait pas partie de l'Europe. Et c'est probablement le mouvement artistique le plus abouti et le plus influent par ses ramifications à travers le monde et surtout pour les valeurs qu'il a prônées, qui ont persisté jusqu'à nos jours. Et ce mouvement a pris une dimension européenne d'abord, puis internationale, et il s'est étendu ensuite jusqu'aux États-Unis et au Japon. Et c'est un mouvement fondateur parce que l'univers esthétique dans lequel nous évoluons doit beaucoup au mouvement Arts and Crafts, et c'est pour ça qu'il faut commencer cette série d'émissions par ce mouvement.
D'accord, mais alors de quelle manière ce mouvement est-il né ?
Alors, ce mouvement est né d'une révolte et le nom a été donné au mouvement artistique et ce nom est une abréviation de Arts and Crafts Exhibition Société qui a été créée en Grande-Bretagne par William Morris, qui est le principal promoteur du mouvement.
Oui, qui est sociologue et critique d'art.
Absolument, et artiste.
Et artiste, oui.
Essentiellement. Et c'est un mouvement qui ne surgit pas ex nihilo. Il provient de cette réaction violente des Anglais et surtout des artistes anglais, des jeunes artistes anglais, à l'industrialisation massive qui s'est produite à ce moment-là en Angleterre, vers 1840. Et ces jeunes artistes vont prendre part de manière très active à cette révolte. Surtout, deux grands artistes aujourd'hui et théoriciens, John Ruskin et William Morris, qui vont expliquer dans leurs ouvrages théoriques comment les jeunes Anglais découvrent la médiocrité de la production mobilière contemporaine en visitant l'exposition universelle de Londres en 1851, car c'est là que s'est produit le crack.
Oui, mais alors qu'est-ce qu'il y avait de si choquant dans cette exposition de Londres ? Parce que quand même l'Angleterre de l'époque était un pays phare du développement industriel mondial.
Tout à fait. L'Angleterre était un produit phare de la production manufacturée et industrielle. Mais malheureusement, les œuvres d'art qui étaient exposées à cette exposition vont laisser les jeunes créateurs dans un profond désarroi. Car il y a un éclectisme esthétique absolument laid. On ne peut pas dire autre chose. Et cette exposition, qui avait un but commercial, donnait l'impression d'un immense bazar et d'une indescriptible confusion esthétique. Les meubles y étaient arabiscotés, dépourvus d'un style certain et pur en quelque chose. Les produits industriels inachevés étaient grossiers, sans beauté. Ils choquèrent les artistes si fort qu'au lendemain de l'ouverture de l'exposition, ils décident de se regrouper pour repenser en termes neufs l'homme occidental et son environnement. Et ils vont donc fonder un mouvement qu'ils appellent tout d'abord l'esthétique discontent ou esthétique du mécontentement, c'est tout dire.
Puis-je vous répéter ça parce que c'est vraiment trop british. L'esthétique discontent.
Merci, parce que je n'osais pas le faire.
On ne pas l'inventer. Donc, il s'agit d'artistes engagés, idéalistes, rebelles, voire militants.
Tout à fait. Ce mouvement est un mouvement militant parce que les artistes anglais ont pensé qu'ils avaient un rôle social et surtout un rôle moral à jouer, et principalement les jeunes artistes qui, à l'instar de John Ruskin, considéraient l'industrialisation comme la destruction de la culture anglaise. Et tous ont pris conscience des désastres provoqués par l'industrialisation et surtout par les excès du libéralisme. Et ils ont constaté l'affaiblissement du niveau de vie des ouvriers et des classes moyennes et la désertification des campagnes qui était due à l'exode rural vers les villes. Et là, dans les villes, se constitue un prolétariat misérable et malheureux. Et tous ces artistes ont voulu lutter avec leurs moyens, à leur mesure, contre l'avilissement des classes défavorisées. C'est donc un mouvement engagé.
Nous sommes donc vraiment au-delà d'une réaction artistique.
Absolument, le mouvement Arts and Crafts ne survient pas par hasard. Il émerge dans un contexte particulier et il faut essayer de se souvenir que depuis le XVIIIe siècle, l'Angleterre a été la plus grande puissance économique et coloniale du monde. Et ça a commencé par le temps des Lumières, des grandes révolutions bourgeoises, et puis le système féodal a disparu au profit d'une économie capitaliste. Et ensuite, la révolution industrielle s'est emparée des entreprises et l'Angleterre a été l'un des premiers pays à connaître l'industrialisation massive, particulièrement dans le domaine du textile. Et c'est au cours du 19e siècle que l'Angleterre dominait le continent européen dans le domaine technique. Et cette expansion s'est poursuivie jusqu'en 1850.
Mais alors pourquoi juste à mi-siècle comme ça ?
Parce que c'est autour de 1850 que la production industrielle a été ressentie comme un phénomène intolérable par les artistes anglais, et tout simplement parce que l'artiste est la personnalité qui cristallise ou qui anticipe sur le social, et ils ont décidé de mettre un terme à ce débordement industriel. Et ils ont dénoncé cette décadence esthétique, et surtout ce qu'ils voulaient, c'était moraliser l'art. Cette crise esthétique s'est étendue peu de temps après aux rapports sociaux, donc ce qui corrobore bien ce que je viens de dire, c'est que les artistes souvent comprennent bien avant ce qui se passe les phénomènes sociaux. Et Arts and Crafts a été un véritable vent de révolte qui s'est levé contre l'égoïsme des classes dominantes qui étaient seulement préoccupées de la productivité et complètement aveugles sur les réalités sociales et culturelles de l'Angleterre. C'est donc aussi un mouvement social et un mouvement de révolte très fort.
Oui, mais outre la révolte, quel était leur véritable credo commun, ou si quelle en était la portée pratique?
Alors, le credo, c'était la moralisation de l'art, et bien sûr au profit d'une esthétique beaucoup plus pure, de formes renouvelées. Et toutes ces recherches intellectuelles ont été initiées par le philosophe John Ruskin, qui était à la fois philosophe, critique, historien d'art, sociologue, et il voulait montrer que le seul modèle de la nature était acceptable. Et c'est particulièrement dans un livre intitulé « Les pierres de Venise » que l'écrivain a proclamé que toutes les belles œuvres d'art doivent imiter les formes de la nature, soit intentionnellement, soit accidentellement, car il voyait dans la beauté de la nature l'œuvre de Dieu. Et c'est important.
Absolument, c'est-à-dire vraiment un mouvement idéaliste par excellence. Donc toute sa réflexion et son action de sociologue visaient donc à trouver des solutions pour lutter contre, on peut dire, les pitoyables conditions de travail, n'est-ce pas, ou la division du travail qui sépare et isole les individus, et aussi contre une certaine laideur de production industrielle. Il a donc inspiré un mouvement artistique à dimension sociale, mais alors Arts and Crafts, proprement dit, cela signifie quoi et quel était réellement son but?
Arts and Crafts, on peut traduire littéralement Arts and Crafts par art et artisanat. C'est donc un mouvement qui s'est constitué dans une perspective réformiste et tous les artistes qui y participèrent avaient pour mission d'améliorer la vie quotidienne et domestique des classes défavorisées par le biais des arts décoratifs. Et c'est sans doute parce que ça a été un mouvement très idéaliste et qui a été sous-tendu par une haute éthique qu'il a eu un effet profond, durable et transnational. John Ruskin et son disciple William Morris entreprenaient dans le cadre de ce mouvement une réforme radicale de l'architecture anglaise et des aménagements intérieurs. Ils ont modifié la manière de vivre par le cadre de vie et l'on parle parfois à propos de ce mouvement de domestic revival. Alors je ne le prononce à la française car je ne connais pas l'anglais.
Si vous permettez, je vais le traduire. Donc c'est le renouveau domestique ou des intérieurs. D'ailleurs ça peut toucher l'intérieur d'une maison ou l'intérieur de l'âme, pourquoi pas. Donc on comprend très bien le fond de leur idéologie ou leur militantisme. militantisme pour un monde meilleur. Mais pourquoi cette apparente résistance à tout progrès? Parce que tout de même, dans le développement industriel, il y avait quand même un apport, un mieux vivre pour l'humanité.
C'est très juste. Ils étaient opposés à la machine, c'est vrai, mais afin de ne pas commettre d'erreur sur le sens de leurs actes, il nous faut donc préciser que ces artistes et ces théoriciens n'étaient aucunement hostile à la production mécanique. Il ne considérait pas du tout la fabrication en série comme l'ennemi du renouveau, mais ce qu'il pensait, c'était essentiellement à élever la qualité d'un produit manufacturé ou industriel. Certes, il préférait le produit manufacturé et le produit artisanal, puisqu'il pensait que tout ce qui était fait artisanalement était beaucoup plus humain, tout simplement. Ça relevait de l'humain, de la qualité humaine.
Oui.
Et c'est essentiellement entre 1860 et 1870 que ces artistes ont été amenés à concevoir de nouveaux idéaux pour les arts décoratifs. Reconstruire un univers décoratif à l'extérieur par l'architecture, à l'intérieur par l'art domestique, en fin de compte l'art de la maison. Il ne s'agissait pas seulement de fabriquer et de diffuser des objets mieux réalisés, mais ce qu'il voulait, c'était avoir une attitude au-delà des modes qui repose sur l'idée que l'architecture et les arts peuvent surtout changer la société. Et presque tous les artistes qui ont pris part au mouvement avaient été formés à la Royal Academy de Londres et ils étaient complètement pétris des écrits de John Ruskin. Il y a eu une ruskinomanie à ce moment-là.
Donc, si vous voulez bien, Brigitte Ducoux-Somao, voyons d'un peu plus près qui était donc John Ruskin et après aussi William Morris, son disciple, n'est-ce pas?
John Ruskin est né en 1819. Il était le fils d'un négociant écossais et très tôt, il a été initié aux arts et aux lettres par une mère certes puritaine, qui a laissé une marque indélébile sur cet aspect de sa personnalité. Elle était un peu rigide, mais très cultivée, et elle l'envoya faire des études au King's College d'Oxford en 1837 et au Christ Church College un peu plus tard. Il était destiné à être prédicateur. On voulait qu'il soit, qu'il entre dans les ordres, hein, qu'il devienne pasteur. Et il a été sujet à de nombreuses crises de neurasthénie durant ses études. Il retournait donc souvent chez ses parents afin de pouvoir s'aliter durant ces crises qui relevaient parfois de crises mystiques. C'est donc quelqu'un qui a profondément marqué par la religiosité, par la spiritualité et par ce désir de transcender le réel. En 1843, il a conçu un ouvrage en 6 volumes intitulé « Modern Painters » qu'il commence à rédiger surtout pour défendre la peinture de Turner et des pré-raphaélites qu'il admirait et qui fut un mouvement auquel il a appartenu. Et cet ouvrage est constitué comme un véritable traité d'esthétique fondé sur l'interdépendance des arts et des autres domaines.
Oui, quand on pense à Turner et ou les pré-raphaélites, on peut dire que Ruskin avait quand même bon goût. Il est vrai qu'il était critique d'art et grand esthète, outre sa grande spiritualité.
Il fut également l'un des premiers théoriciens à fonder son analyse artistique sur l'interdépendance du domaine de l'art et des autres domaines de l'activité humaine. J'insiste un peu, je me répète, mais c'est important, car il fut le premier sociologue de l'art et de l'histoire des sociétés, et il pensait que l'histoire des sociétés donne la clé pour comprendre l'histoire des arts. Ce n'est venu que très longtemps après Ruskin en France. Les Allemands ont toujours eu plusieurs longueurs d'avance sur nous, sur l'histoire de l'art. Donc, pour nous, c'est très récent, mais Ruskin a déjà découvert ça en 1843. Et il a diffusé sa pensée en donnant dans toute l'Angleterre une série de conférences sur l'architecture et la peinture, et cela notamment en 1853. Et dans un livre intitulé « Les 7 lampes de l'architecture » qui apparaît en 1849, sur lequel il appuiera toutes ses idées. Il expose donc dans cet ouvrage toutes ses conceptions esthétiques et dans un autre ouvrage aussi, beaucoup plus engagé socialement, qu'il a intitulé « L'économie politique de l'art » et qu'il a publié un peu plus tard, en 1857. Et dans cet ouvrage, il examine les problèmes sociaux nés de la civilisation moderne. Puis, un peu plus tard, il écrira « Force Clavigera », qui est un recueil écrit entre 1871 et 1887, dans lequel il écrit des lettres beaucoup plus familières. Cela se présente non pas sous la forme d'une théorie, mais sous une forme épistolaire. Et dans ces lettres, il s'adresse aux ouvriers d'Angleterre. Donc, il invente un dialogue social avec les ouvriers.
Tout en restant sociologue des arts.
Oui, tout en restant sociologue des arts. Sa pensée fut légitimée et officialisée puisqu'il fut nommé professeur à l'université d'Oxford et il a enseigné à Oxford de 1869 à 1878. Ce ne fut donc pas, comme vous venez de le dire, seulement un théoricien de l'art, mais un homme qui a incarné sa pensée dans le réel. Il était immensément riche et il a dépensé presque toute sa fortune en œuvres philanthropiques. Il a créé des bibliothèques, il a insisté sur la nécessité de créer des musées, qui sont les conservatoires du patrimoine anglais. Et l'un des plus grands et des plus fervents admirateurs de John Ruskin fut Marcel Proust, qui, avec l'aide de Madame sa mère, a traduit la Bible d'Amiens. Et il considérait John Ruskin comme le directeur de conscience de son époque. Il s'en moquait quelquefois un peu, car l'esprit de Proust était incisif. Et il était totalement persuadé que cet homme pouvait relever l'esthétique du XXe siècle. Il faut dire, pour en finir avec John Ruskin, qu'il était enclin à de fréquentes crises de démence qui ont rendu l'achèvement de son œuvre difficile et il meurt en 1900 dans une crise de démence.
Oui, il était mystique quand même. Voilà un aperçu du parcours de John Ruskin, figure ô combien emblématique de son époque. Je rappelle à nos auditeurs que nous sommes en compagnie de Brigitte Ducoussot-Mao, historienne de l'art et spécialiste de l'art nouveau. Notre entretien aujourd'hui porte particulièrement sur le début de ce courant, le mouvement Arts and Crafts, né en Angleterre dans le dernier quart du 19e siècle. Brigitte Ducoussot-Mao, vous nous avez donc parlé des origines de ce mouvement idéologique et artistique. Et outre John Ruskin, que nous venons d'évoquer, une autre figure a marqué cette époque, celle de William Morris. Est-ce que vous auriez la gentillesse de nous en parler également?
Vous avez raison, William Morris est l'homme providentiel pour Ruskin parce que c'est par William Morris que s'est diffusée et s'est incarnée la pensée de Ruskin. William Morris naît en 1834 et c'est un intellectuel, il fait partie de l'intelligentsia et on dit qu'il est un artisan, il prétendait à ce titre, surtout un théoricien, un poète, un grand poète, un homme politique très engagé et surtout il a été le plus fervent adepte de la philosophie de Ruskin et il l'a mise en application esthétiquement et socialement. Cet homme a fait des études de théologie à l'Exeter College d'Oxford, où il a appris l'histoire de l'Église et de la poésie. Alors vous voyez, nous rejoignons toujours le côté mystique de ces promoteurs du mouvement Arts and Crafts. Ce sont donc deux personnalités extrêmement à l'esprit extrêmement élevé. Et il a rencontré Philip Way, qui était un architecte et qui deviendra son ami. Il va rester le plus fidèle collaborateur de William Morris, car c'est également avec Philip Webb qu'il a fondé l'Arts and Crafts Society et c'est toujours avec Philip Webb qu'il a dessiné en 1859 les plans de sa maison de briques rouges, cette maison qui était une incarnation de l'esprit et de la pensée d'Arts and Crafts et l'on pourrait presque dire qu'elle fut le manifeste en lettres de pierre du mouvement mené par Morris. Elle s'appelait et elle s'appelle toujours la Red House.
Alors vous nous parlez de la Red House, alors Red comme rouge, de quel rouge s'agit-il? Celui de la Révolution ou du sang ou le rouge de la vie?
Ou le rouge des réformes sociales auxquelles était tant attaché William Morris, qui concevait l'artisanat comme une force créatrice susceptible de défier la production industrielle et il jugeait également que cette production industrielle était tout à fait médiocre et peu propice à l'épanouissement des ouvriers. C'est William Morris qui a initié cette idée et que les arts mineurs et les arts majeurs ne devaient pas être hiérarchisés.
Oui, ça c'était très important.
Absolument.
De faire une bonne distinction entre art majeur qui concerne la peinture, la sculpture.
Et l'architecture que l'on appelle encore aujourd'hui la mère des autres arts. Le débat reste ouvert. Et William Morris voulait élever le statut de l'artisan à celui du créateur. Et réciproquement, il voulait que les artisans soient alors des créateurs, et tout cela afin de favoriser l'épanouissement du talent individuel et pour la promotion des travaux manuels. William Morris était encore un homme qui pensait, comme l'architecte français Viollet-le-Duc, qu'il fallait renouer avec l'esprit des guildes au Moyen-Âge. Il trouvait que cette époque était idyllique, car les fabricants et les créateurs n'étaient pas dissociés. Et ils espéraient que ce retour vers cette tradition artisanale, cette coopération serrée qui permettait de retrouver une unité dans le produit achevé, permettrait sans doute d'arriver à des produits manufacturés absolument extraordinaires de qualité.
Oui. Oui, en conclusion, on pourrait dire que William Morris souhaitait retrouver dans cet esprit de corporation les conditions spirituelles idéales d'une certaine renaissance de la créativité.
Certainement.
Oui, comme une œuvre parfaite. Merci Brigitte Ducoussot-Mao pour cette belle leçon d'histoire de l'art. Votre éclairage sur cette fin de siècle et particulièrement sur le mouvement Arts and Craft qui donne naissance au mouvement beaucoup plus connu de l'art nouveau. Et donc c'était un éclairage très important parce qu'il est très peu connu ce mouvement Arts and Craft. Et je rappelle à nos auditeurs que dans cette émission Carrefour des Arts sur Canal Academy, nous vous réservons tout un cycle sur le développement de l'art nouveau en compagnie donc d'une spécialiste en la matière, Madame Brigitte Ducoussot-Mao. Merci.